à tout prix la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour. En premier lieu, je vous remercie de m'offrir cette tribune pour me permettre de me présenter et de vous faire part en quelques mots de ma démarche. Je m'appelle Cédric Lecorf. Je suis plasticien, plus exactement sculpteur et graveur. Je suis né à Bulle, en Allemagne, une petite ville de forêt noire à quelques encablures de Strasbourg. À la fin de ma scolarité, j'ai rejoint la France. Je suis diplômé, avec mention et félicitations, de l'École européenne supérieure d'art de Bretagne, de Lorient. J'ai eu la chance d'y rencontrer un professeur de gravure, Pierre Collin, qui a su me passionner pour cette discipline et l'exigence que réclame la pratique d'un art. Bilingue, français-allemand, dès la sortie de mes études, je me suis installé pendant 7 ans à Berlin, où j'ai entre autres enseigné la gravure à Bethanien. J'y ai rencontré des artistes de renommée internationale pour lesquels j'ai travaillé comme assistant, tels que Déroubet et Meise. Actuellement, je vis et travaille sur l'île de Groix, en Bretagne. Et depuis 2016, je suis résident de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France à la Fondation Dufresne, à Chars dans le Val d'Oise. En 2017, le prix Georges Coulon de sculpture m'a été décerné par l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France, que je remercie. C'est pour moi un encouragement et je m'efforcerai d'en être digne. D'autre part, je viens d'être nommé membre de l'Académie de France à Madrid pour l'année 2018-2019 à la Casa Velázquez. Je commencerai, si vous voulez bien, par ce qui me motive dans les choix de mes sujets. Ensuite, je vous parlerai de mes réalisations passées et de mes projets à venir. D'origine allemande par ma mère, professeur de lettres allemande et française, et d'origine bretonne par mon père, artiste peintre originaire de Lorient, j'ai donc été depuis mon enfance confronté et éveillé dans le monde de l'art et le pathos propre à ces deux cultures. Les polychromes rhénans, les gravures de Dürer, de Baldungrin, le retable d'Isenheim, de Grunewald, que j'ai pu admirer à de nombreuses reprises à Colmar, se sont peu à peu mélangés dans mon musée imaginaire, avec les sculptures peintes des saints bretons du XVIe et XVIIe siècle, avec les arches triomphales, Port Samaro, Porte de la Mort, les enclos du Finistère, Guimillot ou du Cap Sizun, les ossuaires de Sainte-Dégonec, les calvaires de Plébin et de Guéhenno. Pour l'anecdote, dès mon plus jeune âge, plusieurs fois par an, c'était l'éternel retour vers la Bretagne. Nous traversions la France avec mes parents. J'étais coincé sur la banquette arrière dans cette odeur d'huile rancie des toiles de mon père. Nous faisions régulièrement des haltes dans la fraîcheur des chapelles romanes pour voir et revoir inlassablement les fresques de Saint-Savin, de Tavan ou le Christ en majesté de Montoire et dans cette église de Kerdeskleden dans le Morbihan, les danses macabres, fresques où l'animé et l'inanimé se côtoient dans cette merveilleuse chute des damnés qui ont profondément marqué le gosse que j'étais alors. Plus tard, lors de mes études, les illustrations anatomiques de Jacques-Fabien Gauthier d'Agoty, l'Humani Corporis d'André Vézal et plus récemment, le traité sur les proportions de Juan de Arf y Villafagne ont aiguisé mon intérêt au point d'en faire mon sujet principal en peinture, gravure et sculpture. Et c'est tout à fait par hasard que j'ai pris connaissance des travaux sur la petite circulation sanguine qui va du cœur au poumon de Miguel Servet, condamné par Calvin à être brûlé en 1553 à Genève. Servet avait découvert que le sang accomplit des échanges nutritifs et respiratoires en va et vient entre les différents organes, dont le cœur et la pompe. Cette image de la pompe du cœur servant de régulateur et de moteur qui aspire et refoule le sang dans le système veineux, m'a amené par intuition au flux et reflux des marées. Fluxus en latin se traduit par écoulement. Il n'en fallait pas plus au pêcheur invétéré et passionné que je suis sur l'île de Groix, et donc observateur familier des marées, spectateur de l'estran, pour y trouver quelques similitudes avec ces eaux qui recouvrent régulièrement les pâtures et qui, selon Platon, se déversent pareilles à des fleuves s'engouffrant dans des mondes souterrains, tels que pourrait le faire la circulation sanguine. Va et vient de la mer, murmure ou rugissement de la respiration, s'engouffrant et surgissant des grottes marines. Ces mondes inconnus complexes, chers à Jules Verne, mais aussi Virgile et Dante, nous confrontent avec cette vision de l'enfer. Sensation d'ailleurs ressentie lors d'une résidence expédition d'un mois, en juin 2017, à bord d'un voilier de 15 mètres dans les îles du Svalbard, dans l'archipel des Spitzberg, avec deux amis artistes. Résident eux aussi à Char, Clarisse Griffon-Dubellay, sculpteur, et Nelly Stettenfeld, graveur. Ce désert de glace et d'eau, ces paysages primordiaux, archimédiens, translucides, peuvent aisément s'apparenter par un jeu habile de l'imagination à la transparence de l'épiderme, laissant apparaître le réseau sanguin, nerveux et la pulsation du rythme cardiaque et des voies respiratoires. Enfin, l'immersion dans ce milieu hors de l'espace-temps a créé cette sensation de naître pour renaître dans l'élément originel, le placenta. Réminiscence platonicienne de l'homme, non pas ange déchu qui se souvient des cieux, mais poisson promu qui se souvient des eaux. Animé par cette sensation de vertige de l'espace et du mal de terre, il m'est paru alors évident, conforté dans ma recherche sur le paysage anatomique, de pouvoir relier ces étendues hostiles à l'homme-paysage. L'image de l'homme, dépecé, s'est métamorphosée en homme-paysage. L'homme, l'arbre et la terre ont en commun de posséder tous trois une écorce, et donc de pouvoir être écorchés. Un corps disséqué n'est-il pas aussi une vaste étendue paysagée, aux multiples accidents, de plissements, de crevasses? La moindre rugosité osseuse n'est pas sans rappeler les paysages rocheux de Patinir ou le vélage des icebergs dérivants. Le réseau veineux, artériel ou nerveux, irrigue-t-elle des rivières et des fleuves, les plaines et les estuaires, les muscles, glaise de la genèse, modèle gorge et tertre. Me servant aujourd'hui de cette métaphore, j'emploie des racines végétales comme élément paysager, pour y imbriquer os, vertèbres ou rotules en porcelaine. La racine, dans son sens étymologique, est en effet une partie d'un élément implanté dans un autre. Ne dit-on pas la racine d'une dent, d'un cheveu, la racine dorsale? J'oppose ainsi l'élément brut du chaos à la maîtrise de la création. L'aspérité au poli, la décomposition à J'oppose ainsi l'élément brut du chaos à la maîtrise de la création, l'aspérité au poli, la décomposition à l'inaltérable, la pérennité de l'art à l'éphémérité de l'homme. Dès mon retour à l'atelier, riche de cette expérience polaire, je me suis très vite remis au travail laissé un mois et demi auparavant à partir des illustrations de Philippe-Étienne Lafosse dans ses traités vétérinaires de dissection chevaline. C'est ainsi que je me suis attelé à la réalisation d'une sculpture équestre présentée dans l'une de mes dernières expositions collectives organisées par le Centre des Monuments Nationaux et sur la proposition de la commissaire d'exposition, Amélie Adamo, jusqu'à fin juin au château de Maison Lafitte. Ipiatri est une sculpture en bois, un briquet de porcelaine non émaillé, assemblé à partir de plusieurs troncs de tilleul taillés à la tronçonneuse et aux ciseaux. Ce bucéphale, écorché, de taille réelle, en regard du tableau de Moncio, Alexandre Dontan le bucéphale, peinture qui inspira David, est représenté dans sa chute, renvoyant au pathos des images gravées de la tauromachia et de la chute peinte par Francisco de Goya. Cette sculpture de l'animal terrassé nous renvoie à un véritable expressionnisme baroque. Dans toute sa contemporanéité, une ode à la tradition. Dans la filiation de Lascaux, des peintures équestres de Velázquez. Hommage aux chevaux de Delacroix, aux études de Géricault et au cheval à la gueule cassée de Guernica de Picasso. La courbure du bassin s'ouvre sur les entrailles telles que Philippe-Étienne Lafosse a pu le notifier dans ses traités complets de la médecine des chevaux et telles que Honoré Fragonard a pu le représenter avec précision dans l'écorché élégant, le cavalier, exposé au musée de l'école vétérinaire à Maison-Alfort. Le caractère tragique de la scène est intensifié par le contraste du bois teint et brûlé et la porcelaine blanche des os, l'ensemble s'articulant autour d'une ligne de force à partir du crâne dépecé, la mâchoire décrochée, accentuant le hennissement de douleur, la torsion de la colonne vertébrale, la cage thoracique amplement ouverte jusqu'à l'éventration, laissant apparaître les viscères. Cet écarissage ou la mort dans sa représentation réaliste provoque une sensation dramatique, propre à l'art baroque. En effet, lors d'une visite du musée de la Specola à Florence, j'ai pu voir les écorchés, les membres et les autres articulations en cire lissée, d'un éclat brillant se côtoyant dans un calme inquiétant, dans de grandes vitrines poussiéreuses. C'est à la suite de ce voyage en Italie que l'idée m'est venue d'apporter à ma sculpture en bois cet apport de la porcelaine pour son apparence éclatante et lumineuse de l'émail en opposition avec la rugosité du bois. J'avais auparavant, lors de mon séjour à Berlin, acquis quelques rudiments du façonnage de la porcelaine auprès de designers italiens. Je dois dire que la découverte de cette collection avait d'ailleurs inspiré le titre de l'une de mes grandes expositions personnelles en 2016, Osservatorio, à la Asclepios Medical School de Hambourg. Quant au projet à venir, je serai à partir de septembre membre de la Casa Velázquez à Madrid et j'ai le désir d'y développer un travail autour de l'art sacré et plus précisément autour du baroque espagnol, de son théâtralisme et de son culte de la mort, en m'instruisant des œuvres et des figures majeures de la sculpture du XVIIe siècle, des polychromés en bois à la chair cireuse ou à la céramique émaillée de Juan de Runi, Alonso Beruguet, de George Gregorio Fernandez et de Pedro de Mena. Ainsi, l'investigation et l'étude constitueront l'essentiel de ma recherche et de mon travail en atelier, dans lequel je réaliserai des sculptures en bois peint, enrichies par des études modelées, gravées et nourries par la beauté tragique du pathos et du réalisme baroque, qui n'est pas si éloigné dans le fond de l'héritage expressionniste allemand que l'on peut retrouver chez Lüpertz ou Baselitz. Voilà, en quelques mots, d'où je viens. Alors vous dire vers quoi je vais, quel sera mon art demain ? Je suis bien conscient des embûches et des interrogations et des doutes qui ne manqueront pas de se présenter durant mon parcours d'artiste. Seul le travail acharné me guidera vers des formes dont j'ignore encore les contours. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est cet attachement au sujet choisi, si puissant qu'il accompagne d'une vive émotion et du désir de me confondre avec lui. Pour étreindre le motif, je ne peux me contenter de restituer l'aspect extérieur, pour explorer la structure profonde. Je dois faire preuve d'une soumission totale au sujet, percer la géométrie secrète, pour enfin faire surgir de la substance du motif la sculpture ou la gravure qu'il cache.